France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Martine Moni, Emmanuel Benito, Frédéric Kiefer, Youtou Diego Hack-Lopez et Olivier Dehay. Voici la cinquième et dernière émission de notre série consacrée aux grandes transcriptions pianistiques du 19e siècle de la musique d'opéra. Après Mozart, le bel canto, Verdi et Wagner, nous écouterons aujourd'hui de l'opéra français de Grétry à Saint-Saëns en passant par Meyerbeer, Bizet ou encore Auber, le fameux Daniel François Esprit Auber, A-U-B-E-R, qui a donné son nom à une station de RER à Paris, et qui est surtout un compositeur mort il y a 150 ans, le 12 mai 1871, et qui nous a laissé une dizaine d'opéras, dans des opéras comiques, et une partition de 1828 créée à l'Opéra de Paris qui s'intitule La Muette de Portici, partition qui a marqué non seulement les Parisiens, mais également les Bruxellois, puisque c'est après avoir entendu La Muette de Portici, dont un air était très invité au patriotisme, que la révolution belge de 1830 a éclaté. Et puis dans cette partition, il y a une jubilatoire tarentelle qui a attiré l'attention de Franz Liszt, auteur de cette tarentelle de bravoure sur des thèmes de la muette de Portici d'Auber, l'une des partitions les plus virtuosissimes de Franz Liszt, et pour la servir, Monsieur Georges Ziffra.
Thank you.
Vous comprenez pourquoi on l'a surnommé le pianiste aux 50 doigts. C'était Georges Siffra jouant la tarentelle de bravoure sur des thèmes de la muette de Portici d'Aubert. Transcription, arrangement, tout ce que vous voudrez, de Franz Liszt qui porte la référence S386 pour ouvrir cette cinquième émission sur les grandes transcription pianistique du 19e siècle. Franz Liszt, bien sûr, est au cœur de cette semaine d'émission avec ses transcriptions, paraphrases et autres réminiscences. Mais il n'est ni le seul ni le premier. Nous avions entendu lundi dernier la musique de Mozart sur des variations de Mozart sur un air d'opéra de Giuseppe Sarti. Il y avait également les variations Mozart de Frédéric Chopin. Et puis Beethoven, lui aussi, pianiste virtuose et grand improvisateur, s'était amusé à cet exercice, par exemple avec cet air extrait de l'opéra Richard Cœur de Lion d'André Ernest Modeste Grétry. Voilà de l'opéra français qui date de 1784 sur un livret de Monsieur Seden. Nous allons entendre l'air qui a inspiré Beethoven avant de retrouver ses variations jouées par Gianluca Caccioli. Voici Hervé Niquet dirigeant le concert spirituel dans ce Richard Cœur de Lion avec dans le rôle titre Renou van Mechelen et Enguerrand Is ténor également chante le rôle de Blondel.
Au ciel! Est-il possible qu'un air que j'ai fait pour elle ait passé jusqu'ici?
Une fièvre brillante, un jour me tenace.
Quelle voix! Je la connais!
Il est mon corps chassé, mon âme languissante, ma lame approche de mon lit, il m'a de moi.
Ce Richard Cœur de Lion d'André Ernest Modeste Grétry, une fièvre brûlante. Je signale entre parenthèses qu'un autre air de cet opéra, Ô Richard, ô mon roi, a presque, on pourrait dire, déclenché non pas la révolution, mais en tout cas enflammé la révolution française, puisque les gardes du corps du roi avaient organisé un grand banquet à l'honneur des officiers du régiment de Flandre. Ils avaient dressé une grande table sur la scène de l'opéra de Versailles, et puis la famille royale s'était montrée. On avait chanté Ô Richard, ô mon roi, ce qui avait fâché une partie de la foule et contraint la famille royale à quitter Versailles pour Paris. Alors fermons la parenthèse, parce qu'il ne s'agit pas de cet air-là, il s'agit d'une fièvre brûlante que chantaient à l'instant Renou van Mechelen et Enguerrand Is. Eh bien, le voici, ce duo entre Richard et Blondel, tel que Ludwig van Beethoven l'avait travaillé, transformé en 1796-97, ici interprété par Gianluca Caccioli.
Thank you.
Variations pour piano sur la romance Une fièvre brûlante de l'opéra Richard Cœur de Lion d'André Ernest Modeste Grétry. C'était le WOO 72 de Ludwig van Beethoven, Werke ohne Opuszahl, donc une œuvre sans numéro d'opus, mais quand même classée, œuvre de jeunesse, ici interprétée en 1996 par Gianluca Cascioli.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Si jamais la magnificence parut dans un théâtre, je doute qu'elle ait jamais atteint le degré de splendeur déployé dans Robert le Diable de Meyerbeer. C'est un chef-d'œuvre. Meyerbeer s'est acquis l'immortalité. C'était pas moi qui dis ça, c'est Frédéric Chopin, auteur d'un grand duo concertant sur des thèmes de Robert le Diable de Meyerbeer avec un violoncelle et un piano. Nous allons écouter dans 3-4 minutes après avoir entendu la version originale de cette partition créée à l'Opéra de Paris en 1831. Immense succès, durable d'ailleurs, tout au long du 19e siècle. On n'a pas arrêté de jouer et de chanter Robert le Diable de Meyerbeer sur un livret d'Eugène Scribe et de Germain Delavigne, d'après une légende évoquant un aristocrate normand du Moyen-Âge qui serait né des amours de la femme du duc de Normandie avec Satan en personne. Voilà le titre de Robert le Diable. Peu importe l'intrigue, voici le fameux air qui a tapé dans l'oreille de Chopin. C'est l'air d'Alice au premier acte, chanté par Carmen Giannattasio.
Oh!
Carmen Giannattasio chantait le rôle d'Alice dans cet extrait de Robert le Diable de Giacomo Meyerbeer avec l'orchestre philharmonique Giuseppe Verdi de Salerne, dirigé par Daniel Oren. Robert le Diable qui a fait l'objet de très nombreuses transcriptions de Liszt, d'Offenbach, de Thalberg, de Johann Strauss et j'en passe. Et puis il y a cette fameuse partition de Frédéric Chopin, écrite en collaboration avec le violoncelliste Auguste Joseph Francom, grand duo concertant en mi majeur sur des thèmes de Robert le Diable. On va l'entendre, cette partition que Chopin a écrit quasiment au sortir de l'opéra. La création a eu lieu le 21 novembre 1831. Chopin était à Paris, installé à Paris depuis un mois et demi. Et lui, qui avait 21 ans, s'était précipité pour écrire ces variations, ici jouées par la violoncelliste Sol Gabetta et le pianiste Bertrand Chamaillou sur France Musique.
Thank you. Thank you.
C'est avec la collaboration du violoncelliste Auguste-Joseph Franchomme que Frédéric Chopin avait composé en 1831 ce grand duo concertant sur des thèmes de Robert le Diable de Meyerbeer, ici interprété par la violoncelliste Sol Gabetta et le pianiste Bertrand Chamaillou. Voici sur France Musique un grand classique de l'opéra français au 19e, c'est Faust de Charles Gounod, qui l'a encore inspiré de très nombreuses transcriptions, et en particulier une paraphrase de Franz Liszt, enregistrée en 1956 par le pianiste Choura Cherkassky. Voici le commentaire de Guy Sacre dans son dictionnaire La musique de piano. Cette paraphrase est toujours aussi irrésistible. Liszt insère dans la valse proprement dite, en guise d'épisode contrastant, le duo d'amour de l'acte 2, Ô nuit d'amour. La pièce vaut par son atmosphère sulfureuse. C'est un avatar de plus de ce Méphisto longuement associé à Liszt et dont la première valse date alors d'une ou deux années. Choura Tcherkassky interprétait cette paraphrase sur la valse de Faust de Charles Gounod, partition signée Franz Liszt.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Et maintenant, nous partons du côté de Gluck. Alors certes, c'est un opéra qui a été créé en italien en 1767 à Vienne, mais c'est un opéra qui a connu une version française qui a marqué les esprits et l'histoire de la musique française. Il s'agit d'Alceste, créé en 1776, et dont voici un caprice sur des airs du ballet, interprété par les pianistes Jean-François Esser et Georges Plodermacher. Jean-François Esser et Georges Podermacher étaient face à face pour jouer ce Caprice sur des airs de ballet d'Alceste de Gluck. Gluck dont les partitions ont été éditées de façon moderne au XIXe siècle grâce au travail de Camille Saint-Saëns qui était tombé sur cette partition d'Alceste qu'il avait beaucoup aimé. Et il s'était amusé à écrire ce Caprice pour piano seul et ce Caprice a été transcrit ensuite pour deux pianos par Claude Debussy. Voilà l'histoire un peu complexe de cette partition qu'on vient d'entendre sur France Musique. Eh bien Camille Saint-Saëns, dont on commémore cette année le centenaire de la mort. D'ailleurs, je vous rappelle que cet été, je vous proposerai un feuilleton en 8 épisodes chaque samedi du mois de juillet et août, le carnaval de Monsieur Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns a transcrit lui-même ses propres œuvres, notamment ce Samson et Dalila, opéra créé non pas en France mais en Allemagne, à Weimar en 1877, qui va devenir un des grands succès, le plus grand succès lyrique du compositeur du Carnaval des Animaux. Voici un extrait, le plus célèbre en tout cas, de cette partition chantée par Marie-Nicole Lemieux.
Autrefois, c'est ce que j'aimais.
C'est l'Orchestre National de France, dirigé par Fabien Gabel, qui accompagnait ainsi Marie-Nicole Lemieux dans cet air du deuxième acte de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns qui a gravé en 1910 sur des rouleaux de piano mécanique une improvisation sur Samson et Dalila. Saint-Saëns qui était un pianiste virtuose. Et on écoutera cette improvisation cet été dans la série que je vous ai annoncée. C'est une autre partition que vous voici. Il s'agit de la fantaisie sur des thèmes de Samson et Dalila, réalisée par le pianiste Jean-Yves Thibaudet. Alors c'est une transcription qui a été esquissée par Thibaudet et terminée par Randy Kerber, Jean-Yves Thibaudet qui l'interprète tout de suite sur France Musique.
Thank you.
Jean-Yves Thibaudet interprétait sa propre fantaisie sur des thèmes de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, réalisé en partenariat avec Randy Kerber.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Cette émission sur l'opéra français ne pouvait pas faire l'impasse sur Carmen de Georges Bizet, l'un des opéras les plus souvent joués, adaptés, transcrits. Ernest Guiraud avait réalisé deux suites orchestrales après la mort de Bizet. Pablo de Sarrazate, une fantaisie pour violon. Ferruccio Busoni, une sonatine pour piano. Rodion Chenrin, un ballet, Carmen suite pour son épouse Maya Pisetskaya. Franz Waxman avait écrit une Carmen fantaisie pour le violon du jeune Isaac Stern dans un film intitulé Humoresque. Bref, les Carmen transcrite ne se compte plus, et nous allons écouter tout d'abord la version originale avant d'entendre Vladimir Horowitz dans d'incroyables variations. Celle permet de nous pencher encore une fois sur la carrière exceptionnelle de Christa Ludwig, à qui nous consacrerons une semaine d'émission. Le 19 février 1966, elle interprétait la célèbre Andalouse avec l'orchestre de l'Opéra de Vienne dirigé par Laurine Mazel.
Oh,
Les tringles des Sistres étaient bien près des micros de la radio autrichienne ce 19 février 1966 pour enregistrer ce Carmen dirigé par Lorin Mazel à la tête de l'orchestre de l'Opéra d'État de Vienne avec Christa Ludwig dans le rôle titre. Et dans cet enregistrement, on peut entendre également James King en Don José et Eberhard Wächter en Escamillo. Hier, on entendait Georges Bollet en 1974 au Carnegie Hall de New York dans un renversant Wagner transcrit par Liszt. Et bien toujours au Carnegie Hall en 1968, c'est Vladimir Horowitz qui s'amuse comme un fou sur Carmen. Voilà un cadeau de Vladimir Horowitz pour les spectateurs du Carnegie Hall de New York le 2 juin 1968, ces variations pour piano sur un thème de Carmen de Georges Bizet. Horowitz qui tient ce goût de la transcription de générations de pianistes qui l'ont précédé, et notamment son père spirituel Sergueï Rachmaninov, que nous allons entendre pour conclure cette série d'émissions dans un célèbre vol d'insectes. 16 avril 1929, Sergueï Rachmaninov jouait sa propre réduction pour piano de ce vol du Bourdon, extrait de l'opéra Tsar Saltan de Rimsky-Korsakov. Bonjour Younès Barza.
Bonjour François-Xavier Chemchak.
Vous n'avez pas le Bourdon, ça va?
Non, mais vous avez bien fait de préciser parce que je ne savais pas de quel insecte vous parliez. J'hésitais entre la guêpe et le Yunkunkun. Oui. La semaine prochaine, dites-moi.
La semaine prochaine, ce sera le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier.
Ah, c'est vrai?
Oui, absolument. Ah, oui. Et donc, on fera une vie de Napoléon en musique, tout
c'est
simplement.
Pas vrai. Lundi ou toute la semaine?
En toute simplicité, toute la semaine.
Oh,
et lundi, ce sera de la Corse au consulat.
D'accord, très bien, parfait. À lundi, François-Xavier, bon week-end.
À réécouter sur francemusique.fr.